BW. Vue d'Allemagne.
Guten Tag, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce magazine qui a connu des actualités plus gaies. On se penche dans un instant sur la mort d'un élu en Allemagne. Un meurtre qu'on soupçonne d'être un attentat de l'extrême droite. Ce serait un tournant. La haine à laquelle doivent faire face les élus communaux en Allemagne depuis quelques années ne cesse d'augmenter. Et puis dans la seconde partie de ce magazine, à l'occasion de la journée mondiale des réfugiés le 20 juin, Vue d'Allemagne poursuit sa série débutée la semaine dernière sur les personnes réfugiées. On sera cette semaine au Royaume-Uni, souvent considéré comme l'Eldorado pour les personnes migrantes. Et pourtant, ceux qui atteignent le pays ne sont souvent pas au bout de leur peine. Mais d'abord donc, l'actu en Allemagne. Willkommen, bienvenue à toutes et à tous.
Le parquet fédéral s'est saisi aujourd'hui de l'enquête sur le meurtre du docteur Walter Lübcke. En l'état actuel de l'enquête, il y a suffisamment d'éléments pour parler d'un arrière-plan d'extrême droite. Cela est corroboré en particulier par la vie passée de l'accusé et par les opinions et les points de vue qu'il a exprimés publiquement.
C'était donc en début de semaine en Allemagne, le porte-parole du parquet fédéral, Markus Schmidt, prend la parole devant les journalistes. Le week-end d'avant, un homme de 45 ans a été arrêté, Stefan E., soupçonné d'être donc l'auteur du meurtre de Walter Lübcke début juin. Cet élu local, président de district dans le centre du pays, avait été retrouvé mort sur sa terrasse début juin, tué d'une balle dans la tête. Et après avoir arrêté un habitant de la région confondu par son ADN, les enquêteurs penchent donc aujourd'hui vers la piste de l'extrême droite. Le suspect en effet déjà été condamné dans le passé pour une tentative d'attaque à l'engin explosif d'un foyer pour migrants. C'était en 1993. Il a aussi été condamné il y a 10 ans pour avoir attaqué un rassemblement syndical avec 400 autres militants néo-nazis. Walter Lübcke, l'élu tué, était sous les radars de l'extrême droite pour ses positions pro-migrants. Il avait reçu des menaces. La justice va donc désormais faire son travail, mais tout cela crée déjà de l'émoi en Allemagne. Si la thèse de l'assassinat politique se confirmait, ce serait le premier depuis les attentats de la fraction Armée Rouge à partir des années 70. En 1981, ce groupe d'extrême gauche avait tué un ministre régional de l'économie, membre du parti libéral FDP. Aujourd'hui, 2 ans après le retour de l'extrême droite au Bundestag, le Parlement, un meurtre politique de l'extrême droite serait un signal fort et inquiétant de plus. C'est ce que nous explique Matthias Kent. Il est directeur de l'Institut pour la démocratie et la société civile à Jena, dans la Saxe, dans l'est du pays.
Une balle dans la tête, la dimension politique et l'absence de prise de position claire, cet assassinat de politiciens au pouvoir, c'est une nouvelle dimension. C'est un tournant absolu si la piste est confirmée. Cela ne s'est jamais produit dans le terrorisme de droite allemand depuis 1945. Il y a eu des tentatives d'assassinat, comme celle de la maire de la ville de Cologne, mais des exécutions ciblées de politiciens par des radicaux de droite seraient vraiment une rupture.
Matthias Kent évoque des tentatives déjà. Au-delà de ce meurtre aujourd'hui, qui on le répète reste à élucider, c'est bien le problème justement, les diverses attaques, provocations, menaces dont sont victimes les élus depuis quelques années en Allemagne. En 2016, dans une enquête nationale menée auprès de 1000 maires, près d'un quart d'entre eux déclaraient avoir déjà reçu des messages de haine ou des menaces en tout genre. Ça fait donc un quart dans tout le pays. Depuis, la maire de Cologne, dans le nord-ouest, a donc été attaquée au couteau pendant une campagne électorale. Le maire de Freiburg, dans l'ouest, a désactivé tous ses comptes sur les réseaux sociaux suite à tas de trop nombreux messages haineux. Les cas se comptent par dizaines. La ministre saxonne de l'intégration, Petra Köpping, en parlait encore il y a quelques jours chez nos confrères de Deutschlandfunk, une radio publique allemande.
J'ai connu des maires très peu sereins en raison des événements. C'est valable pour les maires hommes et femmes qui ont connu des hostilités, des menaces et dans certains cas même l'exclusion.
L'exclusion, c'est justement ce qu'a connu Markus Niert, maire de la commune de Tröglitz et de ses 2800 habitants. En 2015, il annonce que le bourg va accueillir une quarantaine de réfugiés. Mais ça ne plaît pas à tout le monde. Il reçoit des menaces. Bientôt, le NPD, le parti ultranationaliste d'extrême droite, organise des manifestations. Il lui adresse des menaces jusqu'à venir manifester devant son domicile privé. C'est là que le maire décide de démissionner pour protéger sa famille et sa personne. Tous sont mis sous protection policière. Le foyer pour migrants du bourg sera incendié. Un cas emblématique des violences d'extrême droite. Et Markus Niert souligne aujourd'hui qu'il n'est pas le seul.
C'est ce qui est dramatique. Beaucoup sont menacés, mais ne le disent pas. On est attaqué en tant qu'homme. Vous semblez d'abord prendre ceci à bras le corps et seulement ensuite vous remarquez que vous êtes ému, que vous êtes touché, que vous avez peur, que votre comportement a changé. Parce que, avec le cas de Lübke, là, on sait que ces menaces peuvent être suivies d'effets pervers et d'actions des extrémistes. Ça fait la différence, bien sûr. Beaucoup restent silencieux. Les familles sont aussi touchées.
Marc Ousniert cite aussi le cas de bénévoles engagés pour les réfugiés, menacés, violentés. Malgré tout, lui n'a pas voulu abdiquer et est resté à Tröglitz dans sa maison avec sa femme, professeure de danse. Mais elle, comme lui, orateur funéraire, n'ont depuis plus la même vie sur le plan économique et dans leurs relations au quotidien.
Le plus grave, c'est qu'on a un boycott économique encore aujourd'hui. Beaucoup de gens n'ont aussi tout simplement plus de contact avec nous parce que nous sommes, pour ainsi dire, en dehors de la communauté du village parce que nous avons amené les médias ici. On nous le reproche.
L'ancien maire de Tröglitz s'en veut aussi à certains élus, au parti de CDU. Il s'est senti abandonné, trop peu soutenu. Aujourd'hui, après la mort d'un élu et la main de l'extrême droite qui semble être derrière, Marc Ousniert est en colère. Il se répète plusieurs fois, il est urgent d'agir contre ces nouvelles menaces, contre les élus et tous ceux qui ne plaisent pas à l'extrême droite.
Je connais beaucoup de familles qui ont depuis longtemps quitté les Länder de l'Est, qui ont abandonné leur gagne-pain et sont rentrées en larmes dans les anciens Länder à l'ouest ou dans des villes où elles se sentent plus en sécurité. Je connais beaucoup d'Allemands de couleur qui sont nés en Allemagne mais qui s'éloignent quand même parce qu'ils sont pris à partie. La vague de haine et d'inhumanité s'est intensifiée. Si la population ne se réveille pas, surtout dans nos Länder de l'Allemagne de l'Est, alors elle va encore augmenter. Un dialogue avec des destructeurs déterminés ne conduit à rien. Au contraire, on se retrouve exclu socialement. C'est comme avec un adolescent en pleine puberté qui dit non et ne veut rien entendre. En tant que société, nous devrions faire preuve de courage. Les politiciens conservateurs l'exigent, mais ils sont aussi compréhensifs. Ce n'est pas possible. Si nous comprenons, ils se sentiront encore plus encouragés. J'espère que nous reviendrons clairement à l'humanité, à ce que nos pères fondateurs nous ont donné après le terrible Troisième Reich comme loi fondamentale, à savoir que la dignité de l'autre est inviolable.
Et le message semblait passer dès le début de semaine en Allemagne. Mardi, les régions de Saxe et de Thuringe dans l'Est ont annoncé leur volonté d'agir plus fermement contre concerts, rassemblements et autres messages de haine de l'extrême droite diffusés sur Internet. Le ministre de l'Intérieur fédéral, Heiko Maas, responsable donc pour tout le pays, a parlé de protéger la liberté. Ça n'ira pas sans tout un tas de mesures économiques et sociales pour plus d'égalité entre les régions, répondent certains. Le débat est en tout cas lancé une nouvelle fois. Reste à voir s'il sera suivi d'acte. T'es vraiment stupide, on doit tout t'expliquer parce que tu ne sais vraiment rien. Ta violence n'est qu'un cri d'amour silencieux. Tes parents n'ont jamais eu de temps pour toi. Schrei nach Liebe, chanson antifasciste de 1993 du groupe allemand Die Ärzte. Chanson live que vous entendez derrière moi lors d'un grand concert contre le racisme et l'antisémitisme. C'était à Chemnitz, dans la Saxe, l'an dernier. Vue d'Allemagne, deuxième partie avec la suite de notre série sur les personnes réfugiées que nous vous proposons à l'occasion de la Journée mondiale des réfugiés le 20 juin. Cette semaine, direction le Royaume-Uni, un pays considéré au sein de l'Union européenne en tout cas comme l'un des pays les plus sûrs pour les réfugiés, mais aussi l'un des plus difficiles à atteindre. D'abord parce que c'est une île, et puis aussi en raison de sa politique d'accueil de plus en plus restrictive. L'immigration a d'ailleurs été l'un des enjeux majeurs des débats sur le Brexit tout récemment. Alors comment se passe la vie de ceux qui atteignent tout de même le Royaume-Uni? Est-ce si simple de s'installer sur place? Mélissa Chemam nous emmène dans la capitale britannique.
Londres, début juin 2019. Quelques jeunes du quartier de Tottenham organisent un festival pour améliorer l'accueil des nouveaux arrivants. Migrant Connection Festival connecte réfugiés, demandeurs d'asile et résidents locaux, offrant musique, nourriture et ateliers gratuits. Hera et Sohel, d'origine grecque et iranienne, s'occupent de mettre tout le monde en contact. Pour beaucoup, la journée est une bouffée d'oxygène, offrant un peu de solidarité au milieu des tracas administratifs, comme pour ce demandeur d'asile camerounais qui souhaite rester anonyme.
La façon qu'on est arrivé en Europe, ce n'est pas facile, vu la situation qui est chez nous actuellement au Cameroun. On ne sait pas à quel moment ça va finir. Et du coup, on a pris le chemin pour arriver en Grande-Bretagne. Et arrivé, notre cerveau ne marchait plus bien. On a atterri Room to Hill, et qui nous aide à remonter, à avoir le moral, qui nous aide à nous ingérer dans la société, et qui n'est pas chose facile.
Et la plupart des gens qui vous rejoignent dans l'organisation, ils ont déjà eu leur droit d'asile?
Il y a certains qui ont déjà leur droit d'asile, et il y a d'autres qui n'en ont pas, comme moi par exemple, j'attends. Il y a des autres qui sont carrément démoralisés, et moi aussi je le suis démoralisé, mais je fais l'effort d'être toujours moi-même. Mais il y a les moments où je ne dors pas, parce que j'ai vécu beaucoup de choses en prison, la torture. Et en chemin aussi pour venir, ce n'était pas chose facile, quoi.
Et vous avez spécifiquement choisi de venir au Royaume-Uni, pour quelle raison?
En fait, la situation n'est pas un choix de fait, mais c'est qu'en chemin, tu peux te retrouver là où tu te retrouves. Il n'y a pas un choix quand tu veux sauver ta vie.
Pour Nurozen, réfugiée érythréenne de 22 ans, malheureusement, même une fois l'asile obtenu, l'installation en Angleterre reste difficile.
Je me sens en partie intégrée. Je sens que je peux retrouver une communauté ici grâce aux associations. Nous sommes partis pour trouver un refuge, le premier possible, le Royaume-Uni ou bien ailleurs. Je me sens chanceuse d'être arrivée ici, oui, d'une certaine façon, parce que il me semble que j'ai plus d'avenir que mes amis en Érythrée. Mais pour être honnête, nos opportunités sont très limitées par le système d'asile, par les politiques d'immigration hostiles. On sent que le gouvernement fait tout pour que le climat soit très hostile pour pousser les réfugiés à rentrer. Le système législatif n'est pas humain.
Saria Tunk est, quant à elle, journaliste. Elle est turque, mais s'est vue annuler son visa par son gouvernement lors d'un séjour linguistique du fait de ses articles et des activités politiques de sa famille d'origine kurde. Après une attente d'un an, elle a reçu son statut de réfugié il y a 2 mois.
Mon père est un auteur et il est en Allemagne où il est réfugié. Mon frère est aussi journaliste, il vit en Suisse, il est également réfugié. Et c'est à cause de mes activités politiques que mon passeport a été annulé et des activités politiques de mon père qui décrit souvent la politique d'Erdogan. Il est membre du parti kurde.
Selon l'Organisation internationale des migrations, près de 9 millions de résidents au Royaume-Uni sont des étrangers, mais les réfugiés sont infiniment moins nombreux. Lors des 12 derniers mois, 17 000 personnes se sont vues accorder le droit d'asile. Pour la plupart, l'intégration est extrêmement difficile. Saria a trouvé un logement grâce à la communauté kurde, mais de nombreux autres sont envoyés dans des villes hostiles et isolées. Une exception, selon l'OIM, est la ville de Bristol, où se trouvent 181 communautés. J'y ai rencontré les organisateurs du Bristol Refugee Festival, Danny and Jules, ainsi que Janet, une réfugiée syrienne, qui joue de la musique traditionnelle pour leur festival.
Quand je suis arrivée au Royaume-Uni, je me suis demandé comment trouver un moyen de m'intégrer à la société. Et j'ai rencontré Danny Vincent, qui m'a permis d'accélérer cette intégration, d'améliorer mon anglais et de rejoindre le Chœur européen de musique, ce qui m'a beaucoup aidée. En arrivant ici, les gens étaient parfois fermés, mais ensuite, ils s'ouvrent.
Selon le Haut Commissariat aux réfugiés de l'ONU, en 2017, le monde comptait plus de 65 millions de réfugiés. La même année, le Royaume-Uni a reçu quelque 26 000 demandes d'asile. Mélissa Chemam à Londres et Bristol pour la Deutsche Welle.
Et on poursuivra la semaine prochaine cette série de reportages sur les personnes réfugiées. On sera de l'autre côté de l'Europe. En attendant, vous retrouvez ce reportage et cette émission en podcast à partager sur notre site internet. Je vous remercie de nous avoir suivis pour cette semaine et je vous souhaite à Alles Gute une bonne semaine. Portez-vous bien. À très bientôt. Tchuss!